Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, B comme Bolognini, Mauro Bolognini, La vie avant la forme, avec Jean Gilly, Emmanuel Meunier et Fernando Ganzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. La forme arrive après, je ne la recherche jamais. Autrement dit, cherchez la forme, vous trouverez la mort. Cherchez la vie, vous trouverez la forme. Se décriait Mauro Bolognini quand on l'accusait de privilégier une certaine joliesse aux dépens du contenu. Parce qu'il avait un sens aigu et instinctif de la composition plastique, un certain goût pour le monumental et l'ornement aussi, hérité de ses études d'architecture, mais pas les moyens de Visconti. Bolognini a longtemps et pour beaucoup encore aujourd'hui été minoré par la critique qui voyait précisément en lui un Visconti du pauvre, apparemment incohérent, inclassable et versatile. Celui qui se décrivait comme un Rossellini qui filmerait comme Visconti a de fait inventé une sorte de synthèse impure de réalisme et d'artifice. Une rétrospective à la Cinémathèque, des rééditions en salle et en DVD viennent pourtant fort opportunément mettre au jour que chez Bolognini, l'évidente beauté formelle est avant tout un formidable moyen de peindre et d'analyser, comme peu l'ont fait, toutes les composantes de la société italienne, sa diversité géographique et l'étendue de son échelle sociale, pour dévoiler, avec son regard âpre, amer et souvent désespéré, les structures archaïques et secrètes qui assignent les rôles sexuels et déterminent les rapports de domination. Exceptionnel directeur d'acteurs et surtout d'actrices, ses portraits de femmes évoluant dans un monde où les hommes édictent leurs lois, portraits riches et complexes, qui par contraste font ressortir la médiocrité des hommes, lâches, vénaux ou corrompus, sont ces jours-ci d'une pertinence et d'une actualité saisissante. Pour évoquer avec nous aujourd'hui dans Plan Large ce cinéaste incontournable de l'histoire du cinéma italien qu'est Mauro Bolognini, deux spécialistes du cinéma transalpin, l'historien Jean A. Gilly de l'Institut National de l'Histoire de l'Art et Emmanuel Meunier, docteur en études italiennes et enseignante à l'Université de Franche-Comté. À leur côté, Fernando Ganzo qui en fin d'émission nous parlera d'un demi-dieu, la star bollywoodienne Shah Rukh Khan, l'acteur le mieux payé au monde, qui fait la couverture du nouveau numéro de notre partenaire Sofilm. Mais pour l'heure, en voiture, c'est l'heure de baguenauder entre garçons et filles dans les faubourgs de Rome.
Oh, un po' di profumo con tanta puzza.
C'hai proprio ragione, va.
Vedi che fiori, belli.
Spunta il sole e la rugiada brilla sopra i fiori. A Nicole gli piacciono queste, Armuto?
Sì, magnateli stasera per cena.
Tutto fa brodo. Però sono belli, senti come profumano.
Capirai, sto a pensare ai fiori.
Vabbè.
Prendi, ho rubato per te.
Oh, ti sei sciupato, amore. La la la
la la. Oh, che famo? Ritorniamo senza tasse in bacino.
E chi l'ha detto questo? Un picnic si può sempre fare, no? La bella bella, pia un po' una scorciatoia.
Forza ragazzi, tutti in palude.
Une voiture, trois filles, trois garçons, trois prostituées, trois jeunes délinquants, c'est les garçons, la Notte Brava de Bolognini en 1959. Ces ragazzi sont tout à fait pasoliniens et pour cause, Jean Gilly, les garçons, c'est Acatone. 2 ans avant, c'est un peu les Nuits de Cabiria aussi de Fellini, et en commun de tout ça, c'est Pasolini, scénariste du film.
Oui, il y a quelque chose effectivement de surprenant quand on voit ce film. On a l'impression qu'on est dans un pré-Accattone. On a l'impression que la marque est plus celle de Pasolini que celle de Bolognini. À vrai dire, les deux hommes s'admiraient réciproquement. Bolognini a par ailleurs déclaré que dans sa vie, il avait rencontré un seul génie, et que c'était Pasolini. Et que, dans la mesure où, ça on le voit à travers toute l'œuvre de Bolognini, il accorde beaucoup de place à l'écriture du scénario, même si après au tournage il prend beaucoup de liberté. Et je trouve que le raccourci entre Rossellini et Visconti est une grande justesse. Mais en tout cas, au niveau de la préparation, c'était quelqu'un d'extrêmement sérieux, donc qui préparait attentivement et qui s'est toujours entouré de scénaristes de grand talent, y compris Scola, Macari, Massimo Franciosa. Donc, quand ils rencontrent Pasolini, ils vont travailler ensemble pendant plusieurs années, ils vont faire 5 films, et je pense que, d'une certaine manière, Bolognini a amené Pasolini à la réalisation. Parce que ce qui dérangeait profondément Pasolini sur les tournages de Bolognini, c'est que c'était des acteurs professionnels.
Alors, pour le coup, les acteurs ici, c'est Laurent Terzieff et Jean-Claude Brialy. C'est vrai que pour un spectateur français, ça fait un peu un choc de les imaginer en jeune voyou romain.
Jeune voyou romain, c'est la merveille du cinéma italien de ces années qui, doublant les acteurs, peut leur faire jouer des rôles très éloignés de ce qu'ils sont en réalité. Brialy et Terzieff étaient des acteurs que Bolognini adorait, qu'il a fait jouer, de même il avait fait jouer Belmondo.
Dans La Viaccia.
La Viaccia, par exemple. Il a fait jouer Anthony Franciosa dans Senilita. Voilà, donc ça c'était ce que permettait le doublage. Quoi. Grâce au doublage, dans le fond, les cinéastes italiens avaient à disposition tout le parc d'acteurs italiens, mais ils avaient également à disposition tous les acteurs français et même un grand nombre d'acteurs américains. Que l'on pense à Anthony Quinn, par exemple.
Ou Burt Lancaster.
Lancaster.
Il me semble qu'avec ce film, Emmanuel Meunier, on a quelque chose de très Bolognini, déjà, qui est ces jeunes hommes qui ont du mal à trouver leur place dans leur société, et surtout qui refusent de grandir, parce que grandir, c'est s'insérer dans le monde et c'est donc rentrer dans la corruption.
Oui, tout à fait. Effectivement, dans la façon de filmer ces jeunes hommes qui sont très beaux, hein, les jeunes filles aussi, il y a quelque chose de très bolognien, hein, mais on sent quand même cette patte, vous avez raison, de Pasolini dans ce film-là, dans ça s'est passé à Rome, la Giornata Balorda. On sent vraiment ces ragazzi di vita, cette jeunesse en déroute, chère à Pasolini, avec effectivement la touche de Bolognini qui deviendra de plus en plus importante au fil de la collaboration avec Pasolini pour prendre, me semble-t-il, le dessus dans Le Bel Antonio, dont on reparlera.
Il y a aussi, je parlais de ce sens instinctif presque du cadre et de la composition, on est dans une utilisation, et c'est très propre là encore à Bolognini, de décors extérieurs. C'est là qu'on est dans un mélange étrange. Si on était en France, on dirait que c'est un mélange de nouvelles vagues et de qualité française par moment, mais il va utiliser ces espaces très pasoliniens, pour le coup qu'il y a à Rome, ces terrains vagues, ces lieux un peu en ruine, pour en faire presque des scènes de théâtre.
Oui, je crois que Bolognini n'aimait pas du tout le décor artificiel. Moi, je l'ai interviewé à Cinecittà, où il disait d'une certaine façon son horreur face à ces décors construits. Il y avait dans un terrain vague de Cinecittà une sorte de caravelle qui avait dû servir à des tournages de films de cap et d'épée, et pour lui, c'était l'anti-cinéma par définition. Lui, au contraire, tourner en décor naturel, y compris pour des histoires situées dans le passé. Pas trop loin dans le passé, parce que quelquefois on lui a fait remarquer qu'il ne tournait que sur des films, il ne tournait qu'en mettant en scène le 19e siècle. Il disait oui, parce que si je voulais mettre en scène le 18e ou le 17e, où les histoires seraient tout aussi passionnantes, j'aurais de la peine à retrouver des décors intacts pour pouvoir les filmer tout de suite. Alors que le 19e siècle, il suffisait de gommer quelques éléments, quelques panneaux d'indication dans les rues, éventuellement enlever les feux rouges, mais pour le reste, le décor était là. Et ça, il avait, je dirais, on peut dire un génie du décor, quoi. Une capacité à voir dans un paysage urbain quel qu'il soit, les traces du passé, quoi. Et avec très peu de moyens, avec parce qu'en plus, ces films qui parfois donnent l'impression d'être des films à gros budget ne le sont pas. Donc, assez peu de moyens, il arrivait à recréer des atmosphères qui étaient fréquemment des atmosphères du 19e ou du début du 20e.
Et puis, dernier élément qui vient là aussi de Pasolini, je parlais de sa collaboration avec Fellini sur Les Nuits de Cabiria, c'est la figure qui intéresse beaucoup les cinéastes de l'époque, et la figure de la prostituée qu'on va retrouver régulièrement chez Bolognini, sauf que dès Les Garçons, on a des figures très étonnantes. On a ces jeunes femmes qui vont se battre pour des questions de territoire, qui sont les victimes prédestinées de ces jeunes garçons qui les utilisent un peu comme des couvertures et qui, évidemment, vont remporter le morceau, y compris à l'écran. Emmanuel Meunier.
Oui, tout à fait. Ce personnage de la putain sublime va être assez récurrent tout au fil de l'œuvre de Bolognini. Dans Boubou de Montparnasse, dans La Viaccia, dans L'Héritage, L'Eredita Ferramonti, dans La Dame aux Camélias, dans Senilita dont on parlait tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, et c'est en cela peut-être que c'est un réalisateur féministe, c'est qu'il est toujours du côté en fait de la prostituée. Il se met vraiment dans sa peau et place le spectateur aussi en état dans une position où il va être à côté de la prostituée, où il va comprendre ses choix, a comprendre son mode de vie.
L'altro giorno hai dimenticato sulla mia macchina una lettera di tuo padre. L'ho letta.
Quale lettera?
Quella in cui ti dice che devi tornare a Catania e cominciare a pensare a sposarti.
Non può essere vero. La calligrafia di mio padre non la capisco neanche.
Io non voglio sposarti. Voglio solo che stiamo vicini. Vicini. Resta. Non andartene via. Non ti chiederò niente. Sta sicuro, sta tranquillo. Da me non avrai nessun fastidio. Non sono come le altre.
Eppure, anche tu sei come le altre.
Che cosa vuoi dire? Tu non sai quello che dici. Sono venuta da te, disposta a tutto, perché ti amo. Ma sono ragazza, capisci? Sono ragazza. Il più cretino e ridicolo dei tuoi compaesani, se sposasse me, non avrebbe nulla da ridire. So che le donne della tua isola, quando vanno a passare la prima notte di nozze negli alberghi di Taormina, sono tutte un pianto. Io non piangerei nemmeno se tu mi ammazzassi. Amore mio. Cos'hai? Stammi vicino. Stammi vicino.
Ma perché vuoi umiliarti? Non posso, non posso.
Antonio, perché non puoi? Perché non puoi?
Antonio, pourquoi tu ne peux pas, perché non puoi? C'est la grande question et c'est le grand problème d'Antonio de Marcello Mastroianni dans Le bel Antonio de Mauro Bolognini, 1960. C'est encore Pasolini au scénario, l'adaptation d'un roman, et il va en adapter beaucoup des romans, Bolognini, c'est le roman de Vitaliano Brancati, et c'est un film qui parle de sexe sans arrêt. Sans jamais le mentionner, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est donc l'histoire d'un homme que tout le monde considère comme un don Juan, qu'on va marier et qui va s'avérer, au grand drame de sa famille, impuissant. Jean-Gilles. Oui.
Il faut d'abord rappeler que Mastroianni sortait de la Dolce Vita et qu'il avait l'image du Latin lover qui lui collait à la peau, et donc quand ce garçon arrive en Sicile, au début du récit, c'est une espèce de Mastroianni de la Dolce Vita. Il a la réputation d'être un homme à femme, couvert d'aventures galantes, et qui tout d'un coup va décevoir tout le monde, et notamment sa famille et surtout sa belle famille. Et Mastroianni va, de manière jubilatoire, casser de manière délibérée son image de Latin lover, son image d'homme à femme, en prenant un certain plaisir à jouer à un impuissant, quoi, justement pour ne pas être catalogué. Il le sera quand même, hein, mais tout de même avec certaines limites et en posant certains jalons. et prendra ses distances et va jouer dans ce récit. Et alors, ce qu'il y a d'admirable, c'est que le film est situé, bon, le roman est sicilien, écrit par un écrivain sicilien. Le film est tourné à Catane, avec une représentation de la ville et des intérieurs des palais de Catane, qui est une ville absolument magnifique, peu réputée du point de vue touristique, mais en réalité est une ville baroque splendide. Et là, dans cet univers où les hommes souffrent de gallisme, c'est-à-dire que pour eux, la vie passe par les relations sexuelles, y compris les relations tarifées, Mastroianni, qui arrive précédé de sa réputation, va au contraire détruire cette image du mal viril qu'impose la société sicilienne.
Ce qui est fascinant, et ce sera assez courant, il me semble, dans l'œuvre de Bolognini, c'est qu'il montre, et c'est en cela qu'il est très contemporain, que la sexualité n'est pas hors sol, dépend d'une construction sociale. Et c'est tout ce qui bloque, il me semble, le personnage joué par Mastroianni dans le film, c'est-à-dire les femmes sont soit des putains, soit des saintes, et son drame, c'est que, autant avec les putains, il y arrive plus ou moins, mais quand il est devant une femme qu'il aime d'un pur amour platonique, ça lui coupe tous les moyens. Manuel Meunier.
Oui, c'est tout à fait ça. Et le film de Bolognini est très, très nourri d'une forme de mélancolie qu'il y avait dans l'œuvre de Vitaliano Brancati, mais d'une façon plus étouffée. C'est un roman qui est écrit d'une façon peut-être un petit peu plus drôle. Et à mon avis, ce film marque un peu le début du processus adaptatif de Bolognini, qui est intéressant parce qu'il prend dans les romans ce qui l'intéresse, en fait, pour vraiment mettre ensuite à l'écran ce qui lui plaît, ce qui lui a paru parlant. Donc ici, par exemple, la mélancolie, c'est pour ça, comme le suggérait Jean-Gilles, effectivement, le roman est déplacé de l'Italie fasciste à l'Italie des années 60, donc à la télévision, au cinéma, pardon. Donc du coup, on trouve ce processus un petit peu dans d'autres films de Bolognini, où il va vraiment utiliser ce qui l'intéresse. On lui a reproché, par exemple, pour Metello, quand il a adapté Metello de Pratolini, de ne pas faire un film social, mais plutôt un film avec des sentiments, parce que là aussi, il jugeait plus intéressant de parler de l'aspect sentimental du personnage, de sa relation amoureuse.
Il me semble qu'il y a aussi, chez Bolognini, ça commence avec le bel Antonio, mais il y en aura beaucoup, une sorte de catalogue de toutes les perversions, toutes les névroses sexuelles possibles. Alors ici, c'est l'impuissance, mais il y aura le voyeurisme, la prostitution, on en a parlé, l'inceste, la masturbation. Qu'est-ce qui intéresse tant Bolognini dans la sexualité? C'est qu'elle est cachée, c'est qu'elle est trouble, elle travaille les personnages, des personnages qui ne se rendent pas compte de ce par quoi ils sont agis?
Oui, tout à fait. Et par là s'explique aussi sans doute sa relation avec Pasolini. Pasolini et lui avaient en commun, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas, mais quand même c'est structurant et ça a une importance dans son cinéma, étaient des homosexuels. Quoi. Et d'où le rapport. Bolognini s'est particulièrement intéressé aux personnages féminins. Et son approche des personnages féminins, évidemment, n'est pas celle d'un cinéaste qui, comme bien souvent c'est le cas, cherche une relation avec ses comédiennes, et plus ou moins amoureux de ses comédiennes, et les exemples sont innombrables. Lui, au contraire, ça se situe dans une espèce d'admiration, dans une espèce de projection de ce qui peut être à la fois une image maternelle, ou au contraire une image de femme mais tenue à distance. Et dans sa façon de les diriger, d'ailleurs, il arrive à des choses absolument sublimes, ce qui fait d'ailleurs, et ça n'a pas été suffisamment souligné, il fait obtenir à ses comédiennes deux grands prix d'interprétation à Cannes. Ottavia Piccolo et Dominique Sanda obtiennent pour Metello et pour L'Héritage le prix d'interprétation féminine. Il n'a pas fait obtenir des prix d'interprétation masculine à des acteurs et à des personnages qui sont par ailleurs. Belmondo aurait pu remporter dans La Viace, aurait pu remporter un prix d'interprétation masculine. Mais c'est là où il donne le meilleur de lui-même. Et d'ailleurs, quand on parle avec Claudia Cardinale, elle considère que c'est le metteur en scène qui l'a le mieux comprise, qui a surtout compris son propre désarroi à elle, puisqu'on sait que c'est une femme traumatisée pour des raisons personnelles, et le cinéaste qui la comprend le mieux et qui donc arrive à lui faire exprimer le plus intensément ce que peut être la souffrance d'une femme, c'est lui.
Bobo. Aiutami. Aiutami. Deve essere successo quello che temevo. Ieri sera ho parlato con mia sorella. Mi ha spiegato cosa ha sentito quando l'ha presa. È lo stesso anche per me. Ho la sifilide, Bubù.
La sifilide?
Ieri sera credevo di non farcela ad arrivare a casa. Sentivo un peso qui.
Mi piacerebbe sapere chi è quel maiale che te l'ha attaccata. Se riuscirò a saperlo, gli pianterò un coltello nel ventre. E tanto meglio se è uno con la grana. Maledetti porci! Porci! Solo perché hanno i soldi! Porci!
Calmati, Bubù.
Impestati! Maiali!
Vous écoutez France Culture, plan large sur Mauro Bolognini avec Jean Gilly, Emmanuel Meunier et Fernando Ganzo. Syphilis, le mot est lâché, c'est le gros souci. Évidemment, des prostituées du Paris, on va en parler, parce que c'est vraiment Paris du début du XXe siècle. Boubou de Montparnasse de Bolognini en 1971, un film tout à fait glauque, terrible, étouffant, qu'aurait dû s'appeler peut-être Bertha de Montparnasse, du nom de la prostituée jouée par Ottavia Piccolo, dont vous parliez tout à l'heure, Jean Gilly, un grand personnage féminin, sacrificiel, comme on aimait les décrire dans la littérature vériste du 19e, début 20e siècle, une femme qui est sous emprise sentimentale de son macro de boubou qu'il a mis sur le trottoir, parce qu'il s'est rendu compte qu'on gagnait plus d'argent en manipulant les femmes qu'en pétrissant la pâte, lui qui était boulanger, mais c'est aussi une femme sous emprise économique. Les riches veulent des femmes, les pauvres leur en procurent, dira Boubou. Et là encore, et c'était déjà le cas dans le bel Antonio, les rapports entre les individus sont certes sentimentaux, mais enfin, c'est avant tout des rapports économiques, Emmanuel Meunier.
Oui, tout à fait. Et puis là, on voit apparaître un autre grand thème de l'œuvre de Bolognini, qui est l'étude de la bourgeoisie, de la décadence de la bourgeoisie, de ses mœurs un petit peu particulières et de ses rapports à l'argent et au sexe. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une fascination, un respect, une fascination de Bolognini pour ses personnages féminins, pour ces personnages de prostituées, pour ces personnages qui ont un rapport parfois compliqué avec le sexe. Et il nous place, c'est vrai, dans Boubou, et ça l'est peut-être encore plus dans Perle antique escale et Vertige, en français, je crois. C'est encore plus vrai où on assiste à des scènes, par exemple des scènes de masturbation féminine à travers des miroirs. Donc le miroir joue, selon moi, un rôle assez important dans l'œuvre de Bolognini pour nous placer un petit peu en position de voyeur, mais sans que ça devienne glauque ou désagréable, avec des scènes toujours filmées de façon assez sensuelle et assez respectueuse là, du corps féminin, de la sexualité féminine.
On se souvient de la dissolution du visage de Mastroianni dans un miroir à la fin du bel Antonio. Alors les accusations contre Bolognini, le Bolognini pictorialiste, maniériste, trouverait avec Boubou de Montparnasse vraiment du grain à moudre, parce qu'on est là dans le tableau vivant, reconstitution. On pense beaucoup à Renoir pour les scènes de bord de fleuve. On pense beaucoup à Toulouse-Lautrec, exposé en ce moment pour les figures des prostituées. Sauf qu'il y a, ce qui me frappe beaucoup, moi, chez Bolognini, c'est qu'on n'est jamais dans le tableau figé. C'est-à-dire que on a ce sentiment pictorialiste, mais c'est toujours en mouvement.
Oui, c'est toujours en mouvement parce que je crois que chez lui, la dimension figurative arrive spontanément, quoi. C'est-à-dire que ce n'est jamais prémédité. Bon, il faut rappeler que c'est quelqu'un qui fait le cadre. C'est quelqu'un qui est à la caméra. Il a un chef opérateur qui amène la lumière en noir et blanc dans la première partie de sa carrière, puis en couleur ensuite, avec de très grands chefs opérateurs, notamment Ennio Guarnieri, qui a filmé le Ludwig de Visconti, pour situer le talent de Guarnieri. Et qui, à partir du moment où l'image est faite sur le plateau, donc il y a un plateau, il y a un décor, qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est généralement un décor réel.
Alors ici, il va mélanger Milan et Turin pour évoquer le Paris du début du XXe siècle.
Absolument, c'est un collage de Milan. Et d'ailleurs, il réussit. Quand on voit le film, on peut se laisser tromper. Ne pas se rendre compte qu'en réalité, la majeure partie du film, en tout cas des extérieurs, sont à Milan ou à Turin, et où il y a des lieux qui peuvent très bien figurer le Paris du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle. Donc, Quand il est sur ce plateau, quand il a un peu oublié le scénario, quand il est entièrement à la scène qu'il est en train de tourner, et qu'il est lui-même à la caméra, et qu'il fait le cadre, je pense que la recherche de la forme n'existe pas. Elle vient, elle arrive naturellement, parce qu'il a une formation. C'est quelqu'un qui a fait des études d'architecture, comme vous l'avez rappelé. C'est quelqu'un qui fréquente les expositions, qui regarde les tableaux, qui regarde les photographies aussi, puisque par exemple le fond à Linari à Florence est d'une richesse exceptionnelle sur l'Italie de la fin du siècle dernier, enfin maintenant de la fin du 19e siècle et de la période d'avant la guerre de 14, et qui, en faisant le cadre et sans faire de recherche particulière, arrive au résultat que nous avons sur l'écran. Alors parfois c'est si parfait qu'on se demande si ce n'est pas prémédité. Et donc, à ce moment-là, on pourrait le taxer de pictorialisme, on pourrait le taxer de formalisme, assujettissant son récit à la forme. En réalité, il n'en est rien. C'est quelque chose qui arrive de surcroît. De surcroît, il a ce génie visuel sur lequel il n'a d'ailleurs jamais vraiment réfléchi. Il dit « je veux rester totalement disponible à l'image telle qu'elle s'offre à moi et telle que je vais essayer de la saisir ».
Manifestation, un coup de feu, deux morts, un étudiant et un policier. C'est Chronique d'un homicide de Bolognini en 1972. Alors, versatilité, apparente incohérence de Bolognini, c'est sûr que pour ceux qui veulent le réduire au film historique en costume avec des beaux décors, ils en seront un peu pour leurs frais, puisque le film est tourné un an après Boubou de Montparnasse dont on vient parler, et documente presque en direct les affrontements qui ont lieu à l'époque entre la gauche extra-parlementaire et l'appareil d'État, qui va donner, c'est le tout début des années de plomb que filme à ce moment-là Bolognini, mais avec une position qui est très étonnante et qui nous parle beaucoup aujourd'hui, à l'heure où on cherche à déceler des signes de radicalisation pour les éradiquer aussitôt. Il y a cette figure de juge au milieu qui est à mi-chemin entre la répression d'un côté et la contestation de l'autre, pour qui un mort est un mort, un mort étudiant et un mort policier, c'est aussi important à élucider, et qui va surtout essayer de comprendre la jeunesse. Pourquoi est-ce que la jeunesse nous déteste et se révolte contre nous? Emmanuel Meunier, il me semble qu'à l'époque, avoir cette position-là, ce n'est pas évident.
Non, c'est pas évident. Puis c'est vrai que ce film est un petit peu une sorte d'ovni quelque part dans l'œuvre de Bolognini, puisque il est contemporain, effectivement début des années de plomb, avant les attentats, avant l'enlèvement, l'assassinat d'Aldo Moro. Mais c'est un film qui, je pense, qui a été porté par ce climat, qui est presque documentaire, en fait, un petit peu comme dans la lignée de tous les films politiques qu'il y a eu en Italie à cette époque-là. Et c'est vrai avec un postulat qui est, selon moi, assez courageux, qui, pour le coup, s'inscrit dans la lignée de cette observation des mœurs de la bourgeoisie et qui place cette figure de juge dans une bien mauvaise position entre, effectivement, son métier, son fils. C'est assez compliqué pour lui.
Mais pour autant, Bolognini n'abandonne pas ses ambitions visuelles. Il y a une utilisation du rouge chez lui qui rappelle assez celle qu'un Godard peut faire, par exemple, dans la Chinoise, mais aussi dans Boubou de Montparnasse, où il place des taches colorées comme ça, ce qui ce qui fait que le celui qu'on accusait de plagier un peu le l'impressionnisme ou l'équivalent italien des peintres tachistes va faire des images qui par moments sont presque abstraites, et c'est ce qui me frappe beaucoup chez Bolognini.
Oui, il a un goût. Alors sur ce film, il faut quand même revenir sur deux points. Effectivement, c'est un peu un ovni, je suis assez d'accord avec vous, mais Bolognini en même temps veut montrer qu'il peut, si on lui propose, ce n'est pas un film qu'il a choisi de faire, mais qu'on lui a proposé.
C'est Lio Petri qui aurait dû le réaliser d'ailleurs, c'est le scénariste d'Lio Petri, Ugo Pirro, qui l'a écrit.
Oui, c'est tout à fait, c'est ce que j'allais signaler, parce qu'effectivement, ça peut, même si Ugo Pirro avait déjà participé à un film antérieurement avec Bolognini, et ça nous ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que Bolognini sait admirablement choisir ses scénaristes, parce que pour lui c'est une étape importante, et alors trouver Ugo Pirro là, effectivement, on ne peut pas parler d'Ugo Pirro sans l'associer à Petri. Et
c'est lui qui a écrit, rappelons-le, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, La classe ouvrière va au paradis, et autres.
Il est lié au grand film politique, entre guillemets, d'Elio Petri, et donc la signature de Pirro nous donne une clé de compréhension qui est en réalité une clé de compréhension très contemporaine, très liée aux événements qui travaillent, qui bouleversent l'Italie en ce début des années 70. Et Bolognini, finalement, montre qu'il est parfaitement capable. Par ailleurs, une fois encore, il a des acteurs. Il reprend Massimo Ranieri, qui était le protagoniste de Metello et de Boubou. Donc, comme s'il transportait ses acteurs pour leur faire jouer. Donc, lui passe de ses films historiques à un film contemporain. Et il prend le même acteur pour passer des films en costume à des films contemporains. Il a un acteur américain formidable qui, dans ses années, tourne plusieurs films en Italie, qui est Martin Balsam, qui l'utilise. Il en fait un juge italien. Martin Marcel devient un juge italien et devient un juge particulièrement crédible, parce que la force de ces films italiens, c'est de ne pas nous donner des images qui pourraient nous apparaître comme saugrenues. Que vient faire? Non, Martin Balsam, il est parfait dans ce rôle. Et donc, il réussit à faire un film politique qui devient aujourd'hui, alors curieusement, ça devient un film d'actualité, quoi. Parce qu'il y a une dimension, par exemple, quand on est dans une espèce de lieu où les étudiants dorment, où ils ont investi, je crois que ce sont les caves d'un établissement universitaire, on a presque un document. Alors cet homme qui est censé être un calligraphiste soucieux de la virgule ou du point, ben là, il est parfait, quoi, il est parfait. Il réussit à faire un des films les plus convaincants sur ce sujet qui a été traité par de nombreux cinéastes italiens. Donc on le trouve là où on ne l'attendait pas.
Il n'est jamais là où on l'attend, Bolognini.
Vederla si direbbe che non ha dormito molto stanotte.
È vero, ma con lei non mi confesso. Vogliamo andare?
On retrouve Marcello Mastroianni dans ce vertige de Bolognini en 1975, sauf que c'est tout le contraire du personnage du bel Antonio. C'est le médecin-chef d'un hôpital psychiatrique dans l'Italie fasciste, à Lucca, et c'est pas un impuissant du tout, c'est plutôt un don Juan qui met dans son lit toutes les femmes de l'hôpital, en tout cas les femmes des médecins. Il aimerait bien mettre aussi dans son lit Françoise Fabian, Anna qui vient d'arriver pour faire une sorte de stage dans cet hôpital, mais elle lui résiste et ça va lui poser des problèmes, des femmes qui résistent, là encore, hein, chez Bolognini, qui remettent en cause les structures de pouvoir à l'intérieur. On est dans un moment particulier de l'histoire de la psychiatrie en Italie. Jean Gilly, c'est le moment où on ouvre les hôpitaux avec les théories de Basaglia, où Bellocchio va réaliser Fou à délier. Ce que montre lui Bolognini, c'est l'hôpital psychiatrique d'avant, c'est-à-dire le monde fermé, qui est une sorte de représentation métaphorique, microcosmique de l'Italie de l'époque. Oui. Le Mastroianni, c'est un peu le Mussolini de cet hôpital.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois que là, l'insertion chronologique est essentielle. C'est tiré d'un roman de Mario Tobino, qui était lui-même médecin psychiatre, et qui lui-même était probablement un peu le personnage de Mastroianni. Et le lieu intéresse beaucoup Bolognini parce qu'il est originaire de Pistoia, qui est une petite ville proche de Lucca, et dans le fond c'est un peu les lieux de son enfance, son adolescence qu'il filme, et il raconte dans le fond c'est un thème formidable quand on considère le moment qui est évoqué, c'est-à-dire les années 30. On peut penser à la France de l'occupation, on peut penser à la Russie stalinienne, où l'hôpital psychiatrique est un lieu d'enfermement où l'on isole les gens jugés politiquement dangereux, quoi. Et on les fait passer par fous, c'est l'époque de la camisole, qui est même pas encore la camisole chimique, hein, on en est encore à la camisole matérielle. Donc il y a une description de ce lieu comme un lieu terrifiant, un lieu d'enfermement, avec un médecin qui est persuadé que l'on doit pouvoir isoler le bacille de la folie, quoi. Car en fait il se sent lui-même menacé par le mal qu'il est censé soigner auprès de ses patients, auprès des pensionnaires de cet hôpital psychiatrique. Donc c'est un film, et alors la volonté de séduction, effectivement, on peut penser à la figure de Mussolini dans les années 30, c'est-à-dire de super mal, hein, de surmal qu'était en réalité Mussolini, puisque il y a des femmes qui prétendaient, comme le rappelle Scola dans Une journée particulière, qu'elles étaient tombées enceintes du fait d'avoir été regardées par Mussolini, quoi. Le regard de Mussolini avait le pouvoir de les faire tomber enceintes, une espèce de mythologie absolument incroyable. Et donc Bolognini raconte ça, et là aussi le choix de faire appel à Mastroianni n'est pas un choix innocent, c'est-à-dire qu'il dit lui-même « Mon médecin qui est là à Lucca, ce n'est pas un médecin aux yeux bleus, froid, ce n'est pas Max von Sydow. » Et pourquoi il l'avait...
On va en parler,
Max. On va en parler. Bon. Mais c'est cet homme-là, cet Italien quelconque, chose dont Mastroianni se vantait d'être capable de jouer des personnages quelconques et de ne pas être justement. Et là, dans ce film, il arrive à donner une intensité dans la représentation de cet individu entouré de ce poulailler. Hein, vous pouvez presque utiliser ce terme. C'est-à-dire, toutes les femmes sont là, la plupart d'entre elles sont amoureuses de lui, et celle qui lui résiste, c'est précisément celle qu'il voudrait le plus avoir. Donc, il y a une représentation de la psychiatrie telle qu'elle était pratiquée, et c'est d'autant plus fort qu'on est dans le pays qui, avec Basaglia, va inventer l'antipsychiatrie, va inventer l'ouverture des hôpitaux psychiatriques et l'approche radicalement différente de la folie, entre guillemets.
Alors, ce qui est très troublant aussi dans ce film, c'est qu'il baigne dans une sorte de climat à la fois érotique et délétère, puisqu'il y a plusieurs scènes qui, chez un autre réalisateur, auraient donné un film tout à fait érotique. Et là, on est encore dans ces constructions très étranges et très fortes des personnages féminins dans le film, c'est-à-dire que le film n'est pas avare de femmes largement dénudées, et pour autant elles ne sont jamais considérées comme des objets. Emmanuel Meunier.
Oui, c'est très juste, et c'est ce que je disais tout à l'heure, même quand nous sommes, nous, en position de voyeurs, on n'a pas non plus l'impression que ce sont des objets et qu'on participe à une vision un peu dégradante de la femme. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans ce film, et ce que je trouve également assez intéressant, c'est l'émergence d'un autre topos, à mon avis, du cinéma de Bolognini, qui est l'importance de ces lieux de passage que sont les couloirs et les escaliers.
Comment ça circule.
Qui est d'ailleurs, voilà, présent dans le titre italien, Per l'antique escale. Et on voit bien dans le Bell'Antonio aussi qu'il passe par beaucoup de couloirs pour symboliser le passage entre deux moments importants de sa vie, notamment quand il rentre chez lui à Catane ou quand il annonce à ses parents son intention d'épouser Barbara. Et ici, on le voit bien dans une des scènes vers la fin du film où Mastroianni et Fabian dévalent l'escalier et qu'elle lui explique en fait que lui aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, se sent concerné par cette folie qui règne dans cet hôpital et en fait on a peur et qu'il essaye d'y échapper. Donc je pense que vraiment ces escaliers et ces couloirs constituent chez Bolognini des lieux où les personnages peuvent passer d'un état de leur existence ou d'une période de leur existence à un autre.
Eccomi, ecco qua l'uovo sei morta. Oh. Assaggiateli. Sono buonissimi, li ho fatti con le mani mie. Te Marie, assaggi e dimmi come sono. Beh, è delizioso. C'hai messo l'anice, è vero? Hai proprio indovinato. E questo è per Lisa. Palma. Stella. Buono da morire.
Ma non sono fatti con la farina.
Con la farina.
O sbaglio?
Certo, ma non solo con quella. C'è sta un'altra cosa che mi faccia venire da giù, dal mio paese. È una specie di corteccia molto dura e si deve pestare nel mortaio, a lungo, così. Perché contiene fosforo. Sì, sì, fosforo.
Oh, Lea, come sei brava. Sai fare di tutto.
No, tutto no. Però quando faccio una cosa, la faccio bene. Ti devo mamma. Un altro?
Io, grazie.
Eccolo, Lisa.
Grazie.
E come si fa a dire di no?
Ciao,
Michele.
Mamma.
Buonasera. Tesoro. No. C'è sta troppo zucchero. Ha già speso un capitale per curargli i denti.
I dentisti.
Ti piace?
Sì, ne posso avere un altro?
Certo. Te.
Grazie.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Mauro Bolognini avec Jean Gilly, Emmanuel Meunier et Fernando Ganzo. Ils sont délicieusement croquants, ces pâtisseries, ces petits gâteaux, les os des morts, comme les appelle sa cuisinière Shelley Winters, Léa, dans ce film très, très, très bizarre, très singulier, là encore dans l'œuvre de Mauro Bolognini, qui est Gran Bolito, sorti en France, ressorti mercredi dernier sous le nom de Black Journal. Il faudra m'expliquer le titre, parce que je n'ai toujours pas compris. Gran Bolito, on aurait pu le traduire par la marmite sanglante, ou plus littéralement la grande lessive. Un film qui aurait pu être signé, Jean Gilly, par un Ferreri, par exemple. Comédie noire, comédie horrifique, comédie très baroque, inspirée d'une histoire vraie. Là, c'est pas un livre, c'est un fait divers, la saponificatrice de Correggio.
Oui, en effet, c'est un film tout à fait... Ferrérien, ça, je trouve que le rapprochement s'impose un peu, c'est-à-dire dans cette manière de détourner des codes, de bouleverser des personnages, d'imaginer des histoires invraisemblables qui, fort heureusement, s'inspirent d'un fait divers authentique, sans quoi c'eût été presque insupportable. Donc, c'est un fait divers authentique, c'est-à-dire une femme qui tue ses voisines pour les réduire, les dissoudre et finalement en faire du savon, quoi.
Et avec les os, on fait de la farine qu'on rajoute dans les gâteaux.
Et avec les os, on fait de la farine, on fait des gâteaux toniques et délicieux. Hein, dans
rien
l'extrait
se
qu'on
perd.
A entendu, on s'aperçoit que les voisines qui viennent... déguster ces douceurs. Il faut dire aussi qu'on est en période de guerre. Hein. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en période un peu de restriction. Alors quand tout d'un coup, on a des gâteaux délicieux, on ne crache pas dessus, loin de là. Donc, Bolognini, c'est vraiment, je pense que c'est un peu une parenthèse ludique. Quoi, hein. Il a eu envie d'abord de retrouver un acteur formidable qui est Max von Sydow, de diriger Shelley Winters, qui à cette époque-là tournait aussi avec... Monicelli et Alberto Sordi, un bourgeois tout petit, qui passait justement pour une actrice qui surprenait tout le monde parce qu'elle venait de l'Actor Studio, et alors que les actrices italiennes, notamment Monica Vitti, qui se moquent d'elle en disant qu'alors qu'elle, elle jouait très spontanément chez les Winters, avant de jouer, de réclamer le silence absolu sur le plateau pour qu'elle se concentre et qu'elle arrive ensuite à exprimer les émotions de son personnage. Donc là, on est dans une espèce de jeu qui pourrait être un jeu de massacre, mais pas tout à fait, où l'on fait appel à des acteurs masculins pour jouer des personnages
de femmes.
Oui, voilà,
j'allais dire, c'est pas la moindre curiosité de ce film, parce que vous mentionnez Max von Sydow, mais il faut signaler que quand on voit arriver Max von Sydow, il porte un collier de perles, une robe très élégante, et que, comme d'autres comédiens, les voisines dont vous parlez, qui dégustent les gâteaux et puis se font trancher la tête, sont jouées par des hommes, et des hommes âgés, donc il y a un côté un peu Madame Arthur dans ce film, mais qui n'est jamais explicité. C'est simplement des femmes un peu hommes, mais qui sont d'ailleurs tuées par Shelley Winters parce que elles ne peuvent pas avoir d'enfants, donc elles sont tout à fait inutiles à la société.
Oui, il faut bien insister juste sur ce point. Ce ne sont pas des travestis. Ce sont des comédiens qui jouent des rôles de femmes, mais qui ne sont pas des travestis.
Emmanuel Meunier.
Alors peut-être pour Max von Sydow, comme il le dit lui-même dans une interview, en fait, comme il joue le rôle d'une des femmes qui est tuée, puis du policier, Bolognini disait qu'il voulait que le spectateur, en voyant le visage du policier, retrouve celui de la victime, pour qu'il y ait une forme de lien. Le titre Black Journal, me semble-t-il, vient du fait que les journaux ont relayé ce fait divers à l'époque, donc sous forme d'une chronique un peu noire, d'où le Black Journal, en fait. Voilà.
D'accord, mais on atteint peut-être aussi là, parce que Bolognini disait qu'il n'aimait pas beaucoup la comédie, c'est pas le grand réalisateur de la comédie à l'italienne, mais peu avant sort Affreux sale et méchant, d'Ettore Scola, et il me semble qu'on atteint là quand même un point limite de la comédie à l'italienne, qui va aller tellement dans l'horreur qu'il va falloir passer à autre chose.
Il va passer à autre chose, oui. Bolognini a commencé sa carrière en tournant de nombreuses comédies, avant même de rencontrer Pasolini, puisqu'ensuite, dans le fond, les films tournés avec Pasolini sont un mélange de comédie et de substrat dramatique. Et finalement, il y excelle, il dirige même Toto. Débrouillez-vous, Arrangiatevi est certainement un des meilleurs films de Toto. C'est-à-dire, il a une espèce de talent à comprendre ce qu'est un acteur et lui faire donner le meilleur de lui-même, qui était très surprenant. Il lui donne des indications extrêmement contraignantes. Il oblige Toto à resserrer son jeu, à être moins extroverti, et à finalement à en faire un personnage qui s'inscrit bien dans ce courant des films italiens des années 50. Donc finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dimension de comédie est présente dans son cinéma, et ce n'est pas parce qu'ensuite finalement il s'est forgé une autre image qu'il faudrait oublier cette formation dans les années 50.
Signorina, non siate crudele, son commosso, sono scossa, non rifiuti quei pochi minuti che di gioia mi può dare l'amo, cicche cicche bramo, cicche cicche tanto, cicche cicche quella, cicche cicche bella, cicche cicche cosa, cicche cicche rosa. Cicche cicche che ben sa, ah che notte, chi può dir le lotte, sostenute, ripetute, ma quel gioco che non duro poco, i ginocchi mi piego, venga, cicche cicche tenga, cicche cicche stringa, cicche cicche stringa, cicche cicche farza, cicche cicche sforza, cicche cicche siamo, cicche cicche giunti al fin. Voi signore che bramate amore, non fiaccate, non sfiancate, chi va piano va molto lontano. E non chiedete troppi bise, venga, cicche cicche tenga, cicche cicche stringa, cicche cicche stringa, cicche cicche forza, cicche cicche sforza, cicche cicche siamo, cicche cicche giù.
Ecco qua gli biscotti, si squaglia in bocca, voi li
Brava Stella, Renato Pozzetto dans Gran Bolito qui chantait Chic et Chic. Merci beaucoup Emmanuel Meunier, Jean Gilly, la rétrospective Mauro Bolognini à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 25 novembre. Vous pouvez aussi voir en salle ce Gran Bolito sous le titre donc de Black Journal depuis mercredi, en attendant son édition en DVD et en Blu-ray le 19 novembre chez Rimini Édition. Je vous le recommande absolument. En salle aussi depuis mercredi, La Viaccia avec Claudia Cardinale et notre Jean-Paul Belmondo Commando National. Quant à Chronique d'un homicide, il ressortira, lui, le 20 novembre. Vous pouvez enfin vous procurer chez Carlotta le coffret DVD qui regroupe Les Garçons, Boubou de Montparnasse, Liberté, Mon Amour et Vertige. Et puis, pour en savoir plus sur Bolognini, on vous recommande également le dossier spécial du numéro d'octobre de Positif. Et puis, si vous êtes parisien, la conférence que vous donnerez, Jean Gilly, jeudi prochain, 14 novembre à 19h à la Cinémathèque française, Mauro Bolognini, Au-delà du style, suivi de la projection de Quand la chair succombe, avec encore Claudia Cardinale. Pour rester dans le cinéma italien, je vous signale aussi que le mythique festival de Pordenone, au lieu du cinéma muet restauré, propose une sélection de sa 38e édition à Paris. Ça s'appelle les Giornate del Cinema Muto. C'est jusqu'au 19 novembre en ciné-concert à la Fondation Jérôme Sédou Pathé. Et puis, on vous recommande encore le dictionnaire du cinéma italien de la marche sur Rome à la République de Salo 1922-1945 pour en savoir un peu plus sur ce qu'on produisait dans la péninsule avant le néo-réalisme. Et enfin, Marcello Mastroianni, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, fera l'objet d'une rétrospective au cinématographe de Nantes. Ça sera du 27 novembre au 13 janvier. On y verra entre autres, évidemment, le bel Antonio. Ceci annoncé, il est temps avec Fernando Ganzo de danser et de chanter sur des mélodies sucrées à souhait.
Oye, Aldina, qui oye?
Qui oye?
सुनिए अर्ज करता हूं ना लखनऊ दा कुर्ता ना पठानी सलवार मर्द वो है जो दिल दे वरना है बेकार
Il y a des centaines de millions de fans dans le monde entier, mais en France, où le cinéma de Bollywood, malgré quelques tentatives, n'a jamais vraiment réussi à percer, peu de gens le connaissent. Enfin, suffisamment, en tout cas, pour provoquer des émeutes chaque fois qu'il passe à Paris. En Inde, en Afrique, dans tout le Moyen-Orient, en Asie et jusqu'en Allemagne, il est considéré comme un demi-dieu, l'icône d'une époque comme Marilyn Monroe pour sa biographe, c'est Shah Rukh Khan, la star dansante et chantante de Devdas, de Verzara, de la famille indienne. C'est lui qu'on entend chanter en ce moment, ou sa doublure, on ne sait pas. Mais comme toutes les stars, à 54 ans, son règne absolu menace de vaciller. Et c'est dans ce contexte que les envoyés spéciaux de ce film, Barnaré Binquetin et Guillaume Vénétité, ont rencontré celui qui n'est pas seulement le roi de Bollywood, mais qui a été pendant longtemps Bollywood à lui tout seul, et qui fait la couverture du nouveau numéro de la revue dont vous êtes le rédacteur en chef, Fernando Ganzo, ce film « Yes, we can ».
En effet, en 2014, c'est Laurent Fabius, qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui, en remettant la légende d'honneur à Shah Rukh Khan, va dire « J'ai vraiment très rarement l'habitude de rencontrer des légendes vivantes ». Mais le chemin des légendes vivantes est souvent atypique, et celui de Shah Rukh Khan l'est particulièrement, parce que dans les années 80, quand il commence à jouer, il est un diplômé en économie, il est de confession musulmane, ce qui est une chose rare dans les cinémas indie, et surtout, il va jouer dans des séries télé, parce qu'il dit que là, il ne faut pas danser, il ne faut pas chanter, il faut juste jouer ou quelque chose comme ça. Il refuse les rôles romantiques, ce qui est une étape un peu obligée pour devenir une star du cinéma, à tel point qu'en 1990, il débarque quelques jours à Bombay à la recherche de Gaudi, qui est une fille qu'il avait quittée et qu'il veut reconquérir et qui deviendra plus tard en fait sa femme. Il n'a pas un sou, il n'a pas où dormir, il doit même vendre son petit appareil photo Pentax. Il va chercher les langues de la promenade des Marina Drive, cette femme et Shah Rukh Khan. Il va monter sur le parapet de pierre à un moment donné, regarder le ciel et crier « Je reviendrai et Bombay sera à moi ». Et cette boutade est devenue une réalité, et justement grâce au fait qu'il acceptait de jouer des rôles des méchants, des rôles très violents, des anti-héros, que d'autres stars refusaient. Et donc, 3 ans plus tard, en 93, il va jouer dans Dar et dans Basil Yar. Là, il joue le rôle d'un séducteur vengeur, particulièrement violent, et étonnamment, contre toute attente, c'est ce rôle-là qui touche le public et la critique et qui donne à Shah Rukh Khan son premier Filmfare Award, l'équivalent de l'Oscar indien, au meilleur acteur. Et il devient alors, comme il le dit, le bon gars au bon moment. C'est un moment où la star Amitabh Bachchan, et pardon par ma prononciation, est un peu sur le déclin, et on attend l'arrivée d'une prochaine vedette. Et à ce moment-là, en 95, Shah Rukh Khan décroche le rôle principal dans Dilwale Dulhania Le Jayenge, où il va interpréter le rôle un peu particulier des Raj, qui est un Indien qui habite à Londres et qui, lors d'un voyage en Europe, rencontre Simran, qu'il finira par épouser après une visite à son village en Inde pour un peu convaincre sa famille. Et grâce à ce rôle, il va incarner et représenter l'Indien mondialisé, un homme urbain mais qui tient aux valeurs indiennes traditionnelles. Au milieu des années 90, ça c'est très important pour le public indien, parce que c'est déjà un public qui sait que l'identité indienne peut très bien se marier avec un mode de vie occidental. Et Shah Rukh Khan va devenir effectivement l'icône de ces changements, la figure du cinéma indie aussi à l'étranger. D'autres titres de l'époque, il y a Ukuch Oka Otata Ai, pardon. La famille indienne, effectivement, comme vous disiez très bien, en 2003, Devdas, qui est un peu sa consécration, c'est un film par ailleurs qui sort au Festival des Cannes. Et à ce moment-là, on comprend que Shah Rukh Khan, c'est quelqu'un qui a garanti à lui tout seul le succès d'un film. Mais bon, tout cela explique comment on devient une star, mais pas comment on devient un demi-dieu. La question serait... ce qui change Shah Rukh Khan des autres acteurs, c'est la proximité. La proximité aux gens, et qui paradoxalement va se jouer beaucoup grâce à la publicité. Il faut savoir qu'à l'époque, très peu d'acteurs et d'actrices à Bollywood font de la pub, parce que c'est pas particulièrement bien payé, c'est des contrats environ 5000 roupies. Et là, il va s'investir comme personne avant lui, à tel point que maintenant, un contrat de pub pour un acteur tourne autour des 25 millions. Il va accepter tout, pourvu que ce soit légal, c'est sa seule condition. Et il va annoncer des voitures Hyundai, des montres Tag Heuer, des choses un peu plus douteuses, comme de la crème blanchissante pour la peau. Et c'est grâce à ce rapport à la publicité, c'est ça qui explique le fait que, comme vous disiez très bien, il a été pendant très longtemps l'acteur le mieux payé au monde. En 2017, on estimait sa fortune à 106 millions de dollars. Et encore une fois, c'est grâce à ça aussi qu'il sera le gars au bon endroit, au bon moment. Parce que, en 1991, l'Inde entreprend d'ouvrir ses frontières aux investisseurs étrangers. Et cette folie consumériste qui va suivre le choisit comme le visage que toutes les marques veulent pour les représenter. Aujourd'hui, avec sa femme, Shah Rukh Khan a sa propre boîte de production. Ils ont une société entertainment dans un énorme bâtiment pas loin de chez eux, avec un studio d'effets spéciaux qui compte 600 employés. Il a produit sa première série Netflix. Effectivement, sa tour peut trembler, même la tour d'un demi-dieu peut trembler. Et il a des doutes, 54 ans, il y a des stars émergentes. Et effectivement, aussi le nationalisme hindou qui prospère en Inde, mais sa position un peu de musulmane, sa confession musulmane, un peu en confrontation à l'islamophobie. Donc, beaucoup de raisons pour lui pour avoir des doutes qu'il accepte, c'est normal. Mais comme il dit, quand j'ai des doutes, je décide d'aller poser des questions à la personne la plus importante de l'Inde. Sauf que, vous savez quoi, c'est moi.
Merci Fernando Ganzo. Le nouveau numéro de ce film avec Shah Rukh Khan en couverture qu'on entend ici dans Devdas, et aussi une longue interview de Richard Linklater qui sera notre invité dans Plan Large le 30 novembre. C'est en kiosque depuis mercredi. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Pierre Monteil. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan Large opérera un saut dans le temps et dans l'espace. Nous serons en direct et en public du théâtre d'Orléans. Nous vous attendons très nombreux pour évoquer l'édition 1939 du Festival de Cannes, celle qui n'a jamais eu lieu pour cause d'invasion de la Pologne par l'Allemagne et qui renaît dans son intégralité à partir de mardi à Orléans. Pour vous y préparer, vous écouterez avec profit les nuits de France Culture demain soir où Philippe Garbit évoquera cette étrange et passionnante histoire. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.